Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Que vous soyez du milieu médical ou non, je vous invite à rester à l'écoute de ces témoignages de patients et de soignants qui enrichissent jour après jour ma pratique. Je m'appelle Aurélie, infirmière depuis 2015. Je travaille à l'hôpital depuis toujours, exclusivement dans le domaine de la cardiologie. L'idée de ce podcast est née d'une envie de faire découvrir au grand public la réalité du métier, le côté agréable et humain auprès des malades et de ses collègues, et au contraire, le manque de moyens et de personnel d'autant plus évident ces derniers mois. De plus, il me paraissait aussi important d'inclure des témoignages de patients afin qu'ils nous fassent part de leur parcours de vie, des bons et des mauvais moments. Nous retrouvons aujourd'hui dans le podcast en compagnie de Justine. Justine est une jeune femme au parcours de vie bouleversant et peu commun qui force admiration. D'infirmière à accompagnante en parentalité, je vous laisse à l'écoute de son témoignage.
Salut Justine et merci d'avoir accepté mon invitation. Pour permettre aux auditeurs de mieux te connaître, Justine, tu peux tout d'abord te présenter s'il te plaît.
Oui, alors salut Aurélie, c'est avec plaisir que je participe à ton podcast. Donc moi c'est Justine, je suis infirmière depuis 2013 et actuellement je suis accompagnante à la parentalité. Je suis maman de deux petites filles, une que j'ai perdue à 8 mois de grossesse et ma deuxième qui a 19 mois. Je vis actuellement en Angleterre pour suivre mon mari qui travaille dans la recherche. Voilà, et normalement je reviens en France dans un an.
Donc Justine, on s'est rencontrés en service de cardiologie. Tu étais infirmière à ce moment-là. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours professionnel et pourquoi ce changement de profession ?
Quand j'ai commencé donc, en tant qu'infirmière, donc, j'ai été diplômée, je disais, en 2013. J'avais fait quelques petits contrats à droite à gauche sur Poitiers, donc ma ville d'origine, entre guillemets. Et ensuite, donc, pour suivre justement mon conjoint, on est parti sur Grenoble. J'ai rapidement trouvé un poste pour le cardiologie. Donc, c'était mon premier vrai poste. Service qui était très dur au départ, mais super. Très riche au niveau apprentissage, au niveau personnel et professionnel. Enfin, c'est vraiment un service avec des très, très bons souvenirs comme des très durs, mais j'en garde vraiment plus du positif qu'autre chose. Ensuite, j'ai dû partir toujours par rapport à mon conjoint. Donc, je me suis mise en disponibilité et on a dû partir sur Strasbourg. Donc, ça faisait 3 ans que j'étais sur Grenoble, enfin 3 ans et demi. Et sur Strasbourg, j'y suis restée aussi 3 ans. Sur Strasbourg, j'ai fait de l'intérim principalement. J'ai fait des contrats en maison d'accueil spécialisée. J'ai fait de la salle de réveil, de l'EHPAD, j'ai fait un peu tout, j'avais même plus à me souvenir exactement de tout ce que j'ai fait. Et c'est là-bas aussi que je suis tombée enceinte en fait. Donc j'ai eu ma première fille, je suis tombée enceinte en 2017, elle est née donc le 4 juillet 2018, donc elle est décédée à la naissance. À partir de là, forcément, j'ai arrêté un peu de travailler, je me suis mis un peu en pause pour par rapport au deuil et puis pour me remettre un petit peu en question sur tout l'aspect de la vie, comment je voyais maintenant les choses, etc. Et puis finalement, après, je suis retombée enceinte assez rapidement, justement fin d'année 2018, et j'ai eu ma deuxième fille le 1er septembre 2019. Et pendant justement ma deuxième grossesse, j'ai travaillé en tant qu'infirmière en entreprise et infirmière en laboratoire. Et donc à la naissance de ma deuxième fille, c'est là où j'ai eu un gros déclic sur mon changement professionnel, parce que je me suis vachement renseignée sur tout ce qui était la périnatalité et la parentalité, parce que pour moi, vu ce que j'avais vécu avec ma première fille, c'était une chance en fait d'avoir ma deuxième fille. J'ai été vachement accompagnée par rapport à ça et je voulais absolument en fait être la bonne maman entre guillemets pour ma fille. Je voulais tout donner pour elle et surtout je me suis beaucoup renseignée et j'ai découvert Sonia Krief, une auxiliaire de puériculture qui a inventé le bain thalasso bébé. Et en fait c'est magique, enfin faut regarder ses vidéos, C'est trop beau, on voit les bébés de quelques jours qui se détendent dans l'eau, qui revivent en fait leur vie in utero. Enfin, il y a un lâcher-prise énorme et c'est juste magique à voir. Trop, trop fan. Et donc là, je me suis dit, waouh, enfin, j'ai envie de faire un truc comme ça, j'ai envie d'accompagner. J'ai, en plus, par rapport au deuil de ma première fille, on a été beaucoup accompagnés tout le long de ma grossesse, etc. Et en fait, avec ma deuxième fille, eh ben, j'ai été accompagnée, mais un coup que je l'ai eue, eh ben, j'étais toute seule. J'étais toute seule et j'étais loin de ma famille. Donc là, je me suis dit, ouais, il manque quelque chose pour les parents comme ça qui sont loin de tout le monde, de famille, amis. Et voilà. Et je me suis dit, ouais, va falloir que je me creuse un peu la tête. Mais il y a la petite graine qui commençait à se mettre. Et voilà un petit peu pour le chemin enfin, le commencement de cet accompagnement à la parentalité, ce chemin que j'ai pris en fait.
Tu nous parles du décès de ta fille, sachant que tu es infirmière de base, comment tu gères le fait de te retrouver de l'autre côté et d'être toi cette fois la patiente?
Ben là, je me suis rendu compte de l'importance des mots en tant que professionnel qu'on pouvait avoir au niveau des patients, de l'impact de comportement verbal et non-verbal en fait, tout ce que ça pouvait entraîner. Je sais que lors de l'annonce donc à ma première écho, donc à 12 semaines à peu près, où on a su que ma fille avait la nuque trop épaisse et qu'il y avait certainement un souci, la gynécologue qui m'a appris ça a pas du tout adapté en fait ces mots. Et sur ce, je me suis pas du tout senti en fait soutenue, donc j'ai carrément changé de professionnel. Et donc là, je me suis dit, ouais, en tant que professionnelle moi-même, j'étais en colère. Je me disais, t'es gynécologue, c'est ton métier, enfin, ça arrive à d'autres, tu dois savoir comment, enfin, tu dois savoir façon de dire, enfin, tu as l'écoute de ton patient et tu dois trouver les mots ou avoir, même si tu trouves pas les mots, c'est avoir un silence, mais une main qui se pose sur la main de ton patient ou un petit geste affectif ou un petit quelque chose. Chose qui fait que tu te sens soutenue en tant que patient, quoi. Et donc au final, j'ai après suivi dans un hôpital à Strasbourg. Et là, j'ai eu une équipe par contre qui a été vraiment formidable, enfin, vraiment au top. C'était une des équipes en France qui était justement très formée sur l'accompagnement justement du deuil périnatal, etc. Et donc ils m'ont accompagnée de A à Z. J'ai même eu la cadre de la maternité qui m'a même passer son numéro perso, enfin, c'est vraiment un accompagnement très humain et c'est juste primordial en fait. Et là, en tant que professionnel de santé, c'est là où on se dit qu'on n'est pas assez formé, justement, on n'est pas assez formé sur tout ça et qu'il faut former en fait les équipes sur l'accompagnement. Là, c'est du deuil périnatal, mais sur n'importe quel deuil en fait, enfin, sur l'accompagnement en général des patients qui vivent des choses qui sont difficiles. Est-ce que ben, on s'en rend pas compte, mais nous, en tant que soignants, peut-être que on en voit tous les jours et des fois on fait plus gaffe en fait à nos gestes, à notre vocabulaire, mais en fait on peut faire vraiment du mal à la personne qui est en face.
Le deuil, c'est déjà compliqué, comme tu dis, on n'en parle pas et on n'est pas formé. Alors j'imagine que le deuil périnatal, voilà, c'est quelque chose qui est très tabou. Est-ce que tu peux comprendre que des gens autour de toi ou des inconnus, quand tu leur annonces que tu as une fille qui est décédée, est-ce que tu peux comprendre leur réaction? Et comment peut-être tu peux aider les gens à changer leur regard par rapport à ce genre de choses? Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, on parle de deuil périnatal lorsque des parents perdent leur bébé entre 22 semaines d'aménorrhée et le 7e jour après sa naissance. Le fœtus mort in vitro, le bébé mort-né ou n'ayant vécu que quelques jours, n'a pas d'existence sociale. Et les démarches faites à l'office d'état civil sont différentes selon les cas. Dans un deuil périnatal, la mère doit accoucher comme toutes les autres mamans. Beaucoup de témoignages d'elles sont présentes sur les réseaux où elles expliquent ce passage si douloureux. Une fois cette épreuve passée, plusieurs possibilités s'offrent aux parents. Une autopsie peut être proposée pour déterminer la cause du décès ou pour préciser le diagnostic. Voir le bébé ou une photo de ce dernier peut aussi aider les parents à faire leur deuil. De plus, le fait de donner un prénom à l'enfant, de l'inscrire à l'état civil ou sur livret de naissance peut participer au processus de deuil.
Alors oui, je peux totalement comprendre parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Au départ, c'est quelque chose que je comprenais pas parce que j'avais trop tendance en fait à me dire ouais, mais moi si j'avais quelqu'un en face de moi qui vivait ça, je ferais pas ça, c'est pas possible. Sauf qu'au final, après avec le recul, hein, le deuil, voilà, tu dis ouais, en fait, t'en sais rien ce que tu dirais, t'en sais rien de ce que t'aurais fait. Enfin, on peut pas savoir tant qu'on le vit pas de toute façon ce que c'est un deuil périnatal. Donc en soi, je pense que non, faut pas en vouloir de toute façon aux gens parce que les gens font généralement tout pour être là. Des fois ils sont maladroits, mais c'est jamais fait exprès. Enfin c'est de la maladresse et en fait qu'on peut donner aux personnes qui ont un proche qui vivent un deuil périnatal, c'est juste en fait d'être à l'écoute. Et voilà, juste dire si t'as besoin, tu sais que je suis là. Juste ça, c'est si t'as envie de pleurer, faut que tu pleures en fait. Garde pas ça pour toi, vas-y, pleure. Est-ce que t'as besoin que je t'aide dans tes démarches administratives? Est-ce que t'as besoin que je t'aide parce que donc nous, on a été confrontés à ben notre bébé, il a fallu choisir. Est-ce que sur ce, on fait une incinération donc avec les autres bébés de l'hôpital qui décèdent? Donc, est-ce qu'on l'a laissé à l'hôpital et puis ils font une crémation avec les autres bébés? Ou est-ce que on prend en charge donc son enterrement, on la récupère? Donc, il y a tout ça, il y a tout cet aspect-là aussi. Hein. Donc, on a dû choisir aussi autopsie, pas autopsie. Donc, nous, on a dû faire une autopsie de notre fille. Donc, il y a cet aspect-là administratif, il y a l'autopsie. Après, on l'a vu dans un cercueil, notre fille. Et après, il faut aller voir les pompes funèbres. Et tu vas voir les pompes funèbres parce que tu as perdu ta fille. Donc tu fais tous ces papiers-là, tu as tout. Et en plus, tout ce que tu fais là, après, administrativement, tout ça, c'est même pas reconnu parce que on reconnaît pas un bébé qui est décédé comme ça, in utero. Donc, il y a tout cet aspect administratif qui est très, très dur à vivre. T'es pas soutenu par rapport à ça aussi. Et donc, t'as besoin de tes proches, quoi. T'as besoin de tes proches pour justement t'épauler et puis vider un peu la charge mentale que t'as par rapport à ça. Donc, juste être là, juste être présent. Même s'il y a rien, en fait, même si on trouve pas les mots, parce que... Mais, après, avec le recul, c'est ce qu'on se disait avec mon mari, c'est nous-mêmes, est-ce qu'on aurait trouvé les mots? Pas sûr, en fait. Mais des fois, justement, vaut mieux rien dire que dire une phrase qui pourrait blesser. Parce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre certaines choses comme d'un côté, tu ne l'as pas connue, donc heureusement qu'elle est décédée dans ton ventre. Tu ne l'as pas connue, ce sera plus facile. Ou t'inquiète pas, t'en auras d'autres, t'es jeune. Des choses comme ça, non, pas du tout, en fait. Donc, juste dire on est là si t'as besoin, c'est...
Et il me semble que vous aviez le choix entre te faire avorter ou la garder. Du coup, vous avez préféré la garder. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce choix?
Donc oui, on pouvait faire une interruption médicale de grossesse. On avait tout simplement pas le courage, en fait. On n'avait pas le courage de se dire que... Parce qu'en fait, pour une interruption comme ça de grossesse, pour la grossesse d'Alice, en fait, donc j'ai appris à 12 semaines qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai eu une biopsie dans les jours qui suivaient pour voir justement si c'était une trisomie, enfin une pathologie qui est assez... des pathologies assez fréquentes quand on voit qu'il y a une nuque épaisse. J'ai été dans l'attente pendant 5 à 6 semaines avant d'avoir les résultats. Finalement, ça s'est avéré qu'il n'y avait pas de... il n'y avait pas cette pathologie-là. Et au niveau des échographies, elle évoluait bien et tout ça. Donc, ils se sont dit, c'était juste une petite anomalie de départ. Ça s'est réglé. Au final, pas de problème. Donc, ce qui fait qu'on est reparti sur une grossesse lambda. Et c'est à l'écho morphologique, donc à peu près à 5 mois et demi de grossesse, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème cardiaque et les reins qui ne s'étaient pas développés. Donc, c'est là qu'ils ont décidé de me refaire une biopsie des trophoblastes. Donc, encore avec 5-6 semaines d'attente. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait une délétion du chromosome 22. Et donc, on savait, un coup qu'on a su qu'il y avait la délétion du chromosome 22, c'est une délétion, en fait, qui fait que tu peux avoir des symptômes. Donc, par exemple, justement, des reins qui ne se développent pas forcément assez, des problèmes cardiaques, enfin, plusieurs symptômes, mais personne n'a vraiment les mêmes. On ne peut pas trop savoir à quoi s'attendre. Donc, il y en a qui naissent, qui arrivent à vivre avec ça. Nous, par rapport aux échos, ils nous ont envoyé voir une néphrologue pédiatrique et un pédiatre urgentiste pour en parler avec eux. Et ils nous avaient dit, si vous la gardez, qu'elle naît, qu'elle arrive à survivre, faut vous dire que votre fille, eh ben, elle sera hospitalisée. Elle sera hospitalisée tout le temps. Elle vivra avec dialyse, son nasogastrique, parce qu'elle aura pas. Il faudra qu'elle ait une greffe des reins à un moment donné. Il faudra qu'elle passe 15 kilos. Enfin bref, tout un truc. Et nous, on s'est dit non, on veut pas de ça pour notre fille. On veut pas on veut pas qu'elle souffre. Il nous avait clairement dit que elle souffrirait, etc. Donc on avait envisagé donc l'interruption de grossesse à ce moment-là. Et puis finalement, de nouvelles échographies. Donc j'étais suivie par un spécialiste au niveau des échographies. Et en fait, quand il a fait donc les échos, il s'est rendu compte que non, clairement, elle ne survivrait pas. C'était impossible qu'elle survive parce que vraiment, ses reins ne s'étaient absolument pas développés. Donc, il avait dit, même si jamais elle naît vivante, elle tiendra un ou deux jours maximum. Et pour ça, il disait, de toute façon, il y a très, très peu de chance. Donc voilà, c'était soit donc on arrêtait la grossesse, donc c'était à peu près à 6 mois de grossesse, ou soit on continuait, on laissait faire les choses naturellement. Et quand on choisit en fait d'interrompre la grossesse, c'est nous qui sommes obligés de faire la demande au médecin. Les médecins n'ont pas le droit de nous dire faut faire ça, vaut mieux faire ci, vaut mieux faire ça. Ils n'ont pas le droit de nous le dire. Eux, ils nous disent ce qui se passe. Et après, c'est à nous de choisir. Donc c'est à nous de signer le papier comme quoi on veut mettre fin à la grossesse. Je comprends totalement toute personne qui font ce choix-là, mais nous, on n'était pas capable. Enfin, moi, j'étais pas capable de me dire, on va pousser sur la seringue pour tuer mon bébé, en fait. Donc, je préférais faire les choses naturellement. Il m'avait certifié qu'elle souffrait pas, qu'elle était très bien dans mon ventre, qu'elle souffrait pas du tout, et que son cœur s'arrêterait du fait qu'elle avait une malformation et sans souffrir, quoi. Donc, on s'est dit, arrivé à ce stade de là, toute façon, de grossesse, l'accouchement serait le même, donc autant profiter d'elle jusqu'au bout, l'accompagner jusqu'au bout. Et
tu la sentais dans ton ventre, elle bougeait quand même,
Ouais, elle bougeait, je l'ai senti dans mon ventre, Fabien, il l'a senti dans mon ventre, ma belle-sœur l'a senti dans mon ventre, ma mère l'a senti dans mon ventre, on la voyait bouger aux échographies, quand on passait des échographies, parfois, quand ils appuyaient trop avec l'échographe, elle poussait. Donc, si, elle bougeait bien. Dès que je mangeais certaines choses un peu plus sucrées ou n'importe, j'avais droit au petit coup de pied, je l'ai bien senti jusqu'au bout.
Et je sais que tu avais mis beaucoup en avant ce deuil et la perte de Alice sur les réseaux. C'était pour toi une thérapie en quelque sorte?
Ouais, pour moi, ça me faisait du bien, en fait, d'écrire tout ça. Et je m'étais justement rendu compte que c'était hyper tabou, en fait. Rien que dans ma famille, donc on a eu la chance, on a eu vraiment la famille qui nous a soutenus vraiment, vraiment à fond. Mais pour autant, il y avait des choses au départ qui ne comprenaient pas forcément pourquoi pas arrêter la grossesse. Parce que eux, ce qu'ils voyaient, surtout nos parents, et en tant que parents, c'est normal, ils ne voulaient pas que nous, on souffre. On était leurs enfants, ils nous voyaient souffrir. Donc ils se disaient, mais plus vous la gardez, plus vous souffrez. Alors que nous, non, justement, ça nous permettait en fait de débuter notre deuil. En fait, on savait qu'on allait la perdre, donc ça nous permettait de profiter, de poser les choses, de se préparer avec l'équipe soignante aussi, ils nous préparaient vachement à ce qui allait se passer, etc. Donc en fait, pour nous, c'était carrément mieux vécu de faire comme ça que justement d'arrêter la grossesse avant. Et moi, ça m'avait aidé, j'avais besoin en fait d'écrire sur ce sujet-là, parce que je voulais en fait que les gens pouvoir en fait déjà aider certaines personnes qui pouvaient le vivre et qui n'avaient pas forcément ce soutien familial, amical, etc. Et justement montrer que on n'est pas seul en fait à vivre ça. Et ça, je trouve que ça a été quelque chose qui nous a vachement aidé en fait de participer à des groupes de parole, d'aller sur des associations en fait qui aident comme ça les parents endeuillés. Donc moi aussi, je voulais faire un peu ma part, faire un petit quelque chose pour montrer que voilà. Et j'avais besoin aussi de faire comprendre aux gens lambda en fait, c'est important de toujours être là. On n'est pas des pestiférés quand on perd. On perd un enfant et en fait on est là quand quelqu'un perd son parent, et là quand il s'agit d'un enfant, en fait c'est quelque chose tellement pour nous qui est inhumain en fait de perdre un enfant. Ça fait pas partie de la cour des choses, quoi. Normalement c'est l'inverse, que les gens ils sont tellement gênés que ils osent pas venir vers nous, et je voulais absolument montrer que faut venir en fait, faut faire pareil, et puis faut faire exister en fait l'enfant qu'on a perdu, parce que, ouais, certes, c'est un bébé qui a vécu que dans mon ventre, mais voilà, je l'ai senti, je l'ai vu, on a l'échographie, et puis on s'est projeté, on a vécu, voilà, pour nous, c'était notre première, on allait vivre plein de trucs, enfin, voilà. Donc ça, c'est un deuil de tout ça aussi, c'est un deuil de l'avenir. Et...
Oui, oui, j'imagine que, oui, la projection que vous aviez déjà dû faire, et puis le fait qu'à un moment, on vous dise... si finalement elle va peut-être pouvoir continuer à se développer normalement, ouais. Et tout, c'est encore le processus est encore d'autant plus long.
C'est ça. Ouais, c'était les montagnes russes en fait. C'était totalement les montagnes russes de se dire que c'est reparti. Ouais, vous êtes sûr que c'est bon. Ouais, là c'est bon. Non, il n'y a pas de raison, vous êtes jeune. Enfin, non, vu les résultats, il n'y a pas de raison, ça va être bon, quoi. Donc là, on était reparti vraiment pendant quelques mois sur, si c'est bon, ok, on y croit, quoi. Et puis finalement, voilà.
Et tu as dit qu'une fois que Alice était décédée, tu étais vite retombée enceinte. Après, ça a été un choix. Puis peut-être comment vous l'avez vécu, la grossesse. J'imagine que tu as été beaucoup plus suivie que une grossesse standard.
Ouais, je suis retombée enceinte 5 mois après. C'était pas forcément prévu. On s'était dit qu'on se laissait le temps, qu'on resserrait l'année d'après tranquillement. Et en fait, ça a été comme Alice. Ça a été un peu la grossesse surprise, quoi. Et je l'ai appris pendant les vacances de Noël où on était rentrés avec la famille. Et je l'ai appris à ce moment-là. Donc, ça a été beaucoup de joie et beaucoup de frayeur, en fait, sur le coup, qui se mélangeait. Et puis, au départ, ça a été vraiment la peur. La peur de... On a eu une prise de sang pour voir si au niveau génétique, en fait, on était porteur ou pas. On sait que, donc, normalement, on n'est pas porteur, mais il y a quand même un petit pourcentage de risque que... on sait que chez la femme, il peut y avoir, en fait, cette délétion. Et donc, on ne sait pas sur ce, peut-être que je peux le transmettre quand même, peut-être que je l'ai ou peut-être que je ne l'ai pas, on ne sait pas, il y a toujours 1% de risque, à peu près, en gros. Donc en fait, on vit toujours avec ce petit truc de, ok, normalement, on est censé pas être porteur, mais il y a toujours quand même 1% de risque que ça arrive de nouveau. Donc tant que les mois de grossesse ne défilent pas pour vérifier au moment de l'écho morphologique que les reins se développent, etc., on vit un petit peu en suspens cette grossesse. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'ai été super bien accompagnée, donc toujours par la même équipe, forcément. Ils ont fait exprès de nous faire des échos beaucoup plus régulières, même si tout allait bien, mais c'était pour me rassurer, parce que on sait que pendant les grossesses, le stress, c'est pas bon, la peur, tout ça, c'est pas bon. Donc, il faut essayer un maximum de détendre la maman, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, j'avais un suivi très, très régulier. Et donc, ça me faisait du bien. Mais c'est vrai que tant que l'échographie morphologique n'était pas passée, c'est vrai que j'étais pas forcément sereine. Et puis, finalement, plus les mois passaient, plus ça se passait bien. Et plus je me disais, ça va le faire. Et ça devrait le faire. Mais c'est compliqué, la deuxième grossesse.
Du coup, on en revient à la accompagnante en parentalité. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et surtout comment toi tu l'as développé, le fait que tu sois aussi en Angleterre, ton retour en France et ce que tu veux faire pour tout ça.
Quand je suis arrivée en Angleterre, donc là, je suis toujours actuellement dispo de la fonction publique. Et donc, normalement, quand je suis arrivée en Angleterre, on savait que je risquais de pas pouvoir bosser parce que je suis très nulle en anglais. Pour notre fille, en fait, quand on arrivait, elle avait 4 mois. Les crèches là-bas, c'est très, 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 très cher. Donc, on pouvait pas se permettre, en fait, de prendre une crèche, tout simplement. Et de toute façon, j'avais pas envie de la mettre en crèche parce qu'après ce qu'on avait vécu, je voulais juste profiter de mon bébé un maximum et profiter en fait de cette chance-là entre guillemets d'être en Angleterre pour être avec elle, la voir évoluer et puis en profiter un max quoi. Sauf que la période a fait qu'on a été confinés et que c'était un peu plus compliqué, fait qu'on ne puisse rien faire du tout. Donc forcément, pas de famille qui pouvait venir nous voir, pas d'amis, etc. Donc il me manquait quand même quelque chose parce que j'ai beau aimer et profiter de ma fille un maximum, j'avais besoin d'un petit quelque chose en plus. J'avais dit, de toute façon, pendant les 2 ans qu'on est en Angleterre, je vais trouver ma voie, donc ma fameuse voie de je veux aller plus vers les bébés, les parents, etc. Et donc, je suivais toujours Sonia Krief. Je me suis rendu compte qu'elle avait ouvert une école sur Paris, donc l'école du bien-être, qui forme justement l'accompagnement, la parentalité et périnatalité. Et donc là, lié au confinement, ils ont fait les formations en visio, alors qu'avant, les formations étaient toutes sur Paris. Donc sur ce, ça a été le déclic et je me suis dit, vas-y, je profite du confinement pour me former en visio. Donc j'ai effectué une dizaine de formations toute l'année dernière. Et sur ce, depuis quelques mois, donc j'ai monté mon entreprise en Angleterre, mais que par visio, c'est avec que des parents qui parlent français, notamment beaucoup pour le moment des gens que je connais, hein, des proches, etc. Et donc j'effectue toutes mes séances par visio parce qu'on n'avait pas le choix. De toute façon, en Angleterre, on ne peut pas se retrouver les uns chez les autres, donc pas le choix. Et après, en France, pareil, je suis obligée de passer par la visio. Donc pour le moment, je fais des accompagnements via la visio et en fait, ça permet c'est bien tombé parce que plein de personnes s'est retrouvées justement tout seules face à leur maternité, seules face à un tout jeune bébé qui fait passer nuit ou plein de petits soucis de coliques de n'importe voilà et t'as pas la famille, t'as pas les amis qui sont là pour t'entourer, t'es jeune maman, t'es jeune papa, c'est des fois c'est ton premier, même des fois c'est ton deuxième, mais pour autant un deuxième c'est toujours limite un premier parce que c'est jamais les mêmes. La visio tombait bien aussi pour accompagner ses parents parce qu'on a besoin, on a besoin d'un soutien quand on vient de toute façon jeune parent parce que c'est un soutien pendant toute notre grossesse. On a des échographies, on voit une sage-femme, on voit un gynécologue, mais le jour où on devient parent, on n'a plus personne en fait qui est là. On se retrouve tout seul et c'est pas forcément évident parce qu'au final on se rend pas compte du tout de ce que c'est de devenir parent et c'est pas forcément tout beau, tout rose. Bébé, ça fait pas ses nuits comme on l'entend. Enfin, ça fait ses nuits, mais ses nuits à lui et pas les nuits des parents, en fait. Donc ça, c'est des choses qu'on ne dit pas assez et qu'on dit que... Dès la sortie de la maternité, ton bébé, il fait ses nuits. Ouais, non, en fait. Non, c'est faux. Enfin, il fait ses nuits, mais pas les tiennes. Et ça, on ne prévient pas assez les parents. C'est plein de choses comme ça, hein, de toute façon. Les pleurs, les pleurs des premières semaines, la nuit qui va être compliquée à la maternité, la deuxième nuit qu'on appelle la nuit de la Java. Enfin, plein de choses comme ça, on n'est pas du tout préparé, en fait. Et même les sages-femmes qui nous préparent la naissance, heureusement qu'elles sont là. Mais les pauvres, elles ont déjà tellement de travail, en fait, et elles te préparent déjà à l'accouchement, etc., qu'elles ne peuvent pas en fait, te préparer sur tout. Et sur ce, en fait, c'est un métier, là, l'accompagnement, la parentalité, qui est en train de se développer à fond, grâce aussi aux 1000 premiers jours. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est quelque chose qui se met en place, justement, pour les enfants, l'importance, en fait, d'accompagner comme ça l'enfance... les 2 premières années de vie. Et voilà, c'est quelque chose qui est en train de se développer et qu'on espère soit reconnu et remboursé aussi pour que tout le monde puisse en bénéficier.
Et j'imagine que du coup, toutes tes formations, elles ont dû t'aider pour le comprendre ta fille et du coup, vivre toi ton nouveau statut de parent.
Ouais, totalement, ça m'a bien aidé parce que encore une fois, on s'est retrouvés tout seul et au final, on le sait, je l'ai appris aussi via les formations, qu'au final, il faut tout un village pour élever un enfant et c'est vrai parce que, en fait, des parents qui sont bien, le bébé sera bien, en fait. Et souvent, du fait qu'on ne connaît pas assez le développement du bébé, etc., on se fout une pression en tant que parent, on est fatigué, on ne comprend pas pourquoi il pleure, et puis on a l'impression qu'on n'est pas capable, on perd confiance, etc. Et en fait, à savoir tout ça, moi, grâce aux formations, ça m'a permis de comprendre réellement le développement du bébé, etc., de me dire, ah ouais, en fait, c'est totalement normal, quoi. C'est totalement normal, c'est ce qu'on nous dit autour, c'est ce qu'on nous fait croire dans les films, dans les pubs, dans tout ce que tu veux, qui est faux, quoi. Et en fait, ça t'aide de total, en fait, à comprendre et à relativiser, te dire, ok, là, elle fait pas ses nuits, elle me réveille 4 fois par nuit, mais en même temps, elle a tel âge, et en fait, c'est normal, quoi. C'est normal, elle a des cycles qui sont pas les mêmes que moi, et voilà. Et rien que de savoir ça, ça fait du bien, quoi. Et en fait, tous les parents devraient pouvoir être accompagnés comme ça et savoir tout ça, quoi.
En tout cas, c'était un super témoignage, tout ce que tu m'as raconté. Je te remercie encore d'avoir accepté d'être sur le podcast. Puis voilà, je te remercie encore.
Merci à toi, Aurélie, c'était super sympa.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée!